quelquefois si douce.
Et pan, toujours dans le mille.
Dégenré. Jean dégenré.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde.
Judith Butler, trouble dans le genre. Lorsqu'on entend les féministes débattre aujourd'hui des significations du « genre », on ressent une sorte de trouble, comme si cette indétermination était une histoire qui allait finir par faire échouer le féminisme. Peut-être ce trouble n'est-il pas nécessairement un sentiment si négatif. Semer le trouble, c'était, comme on me le répétait dans mon enfance, la chose à éviter à tout prix si l'on ne voulait pas s'attirer d'ennui. Manifestement, la rébellion et la réprimande sont prises dans les mêmes mots, une observation qui m'a ouvert les yeux sur la ruse du pouvoir et ses astuces. La loi en vigueur nous menaçait d'avoir de sérieux ennuis, et tout ça pour mieux nous empêcher de semer le trouble. J'en ai ainsi conclu qu'on troublait l'ordre de toute façon, et que les ennuis étaient inévitables. Dès lors, la question était de savoir comment le faire au mieux, et quelle était la meilleure manière de s'attirer ces ennuis. Le temps passant, de plus en plus d'ambiguïtés ont fait leur entrée sur la scène critique. J'ai remarqué que le trouble était parfois un euphémisme pour parler de toutes sortes de problèmes, plus mystérieux les uns que les autres, et qui tournaient en général autour de ce mystère impénétrable qu'est le féminin. J'ai lu Beauvoir, qui expliquait qu'être femme dans une culture masculiniste revenait à être une source de mystère et de non-connaissance pour les hommes. Et cela ne m'a pas semblé complètement faux en lisant Sartre, pour qui tout désir, bien entendu hétérosexuel et masculin, ce qui n'est pas sans poser problème, se définit en termes de trouble. Pour le sujet masculin du désir, le trouble fait scandale quand un objet féminin, avec une capacité d'agir inattendue, fait irruption sans crier gare, soutient son regard, regarde à son tour, défiant par là la place et l'autorité du point de vue masculin. La totale dépendance que le sujet masculin entretient avec l'autre féminin révèle d'un seul coup combien son autonomie est illusoire. Pour démontrer que les catégories fondamentales de sexe, de genre et de désir sont les effets d'une certaine formation du pouvoir, il faut recourir à une forme d'analyse critique que Foucault, à la suite de Nietzsche, a nommée généalogie. Une critique de type généalogique ne cherche absolument pas à trouver les origines du genre, la vérité cachée du désir féminin, ni une identité sexuelle originelle ou authentique, si bien réprimée qu'on ne la verrait plus. Faire une généalogie implique plutôt de chercher à comprendre les enjeux politiques qu'il y a à désigner ces catégories de l'identité comme si elles étaient leur propre origine et cause, alors qu'elles sont en fait les effets d'institutions, de pratiques, de discours provenant de lieux multiples et diffus. La tâche de cette réflexion est de se décentrer et de déstabiliser de telles instances de définition. Le phallogocentrisme et l'hétérosexualité obligatoire. Si le genre et son analyse en termes de rapport se trouvent au cœur de cette réflexion, c'est précisément